RFI, Radio France Internationale, 5h30 à Maputo, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'actualité africaine sur la radio du monde et le Mozambique à la une de ce premier journal. Rencontre prévue cet après-midi autour du président sortant pour tenter de dénouer la crise post-électorale. Philippe Nyusi doit s'entretenir avec les quatre candidats du 9 octobre. En visioconférence peut-être avec Venancio Mondlane toujours en exil et qui revendique la victoire. Le Mozambique encore, les soldats et les policiers accusés d'avoir commis de graves exactions sur des civils près du site gazier de l'entreprise Total, la branche locale du géant français le savait dès 2021. La police sud-africaine a le droit d'opérer son blocus sur le puits de mine de Stilfontein. Il ne s'agit pas d'un piège, dit la haute cour du Gauteng, puisque les mineurs ont la possibilité de sortir. Les vannes financières du budget malgache grande ouverte pour les infrastructures et pour l'énergie. Petit filet d'eau, en revanche, pour l'éducation et la santé. Mauvais calcul, disent les organisations civiles. Le football est la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions en Afrique. 8 matchs dès cet après-midi. Une rencontre pour dénouer peut-être la lourde crise post-électorale qui endeuille le Mozambique. Les quatre candidats à l'élection présidentielle contestée du 9 octobre doivent s'entretenir cet après-midi avec le président sortant, Philippe Nyusi. Il a convoqué cette réunion pour tenter de résoudre une situation toujours très tendue. Les trois opposants veulent mettre sur la table la question de l'annulation du scrutin, dont le candidat de la RENAMO est toujours donné gagnant. Mais où Venancio Mondlane continue de revendiquer la victoire. Correspondance régionale, Gaëlle Lalex.
Sur le principe, ils sont tous d'accord pour dialoguer, mais chacun a ses conditions. Daniel Chapot, candidat du Frelimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance et vainqueur de la présidentielle selon la commission électorale, a été le dernier à répondre. Un simple communiqué du parti a confirmé hier sa présence et son engagement pour la stabilité politique du pays. Cette rencontre n'est pas pour le réjouir, car les trois candidats de l'opposition sont d'accord sur un point. Il faudra discuter de l'annulation des élections générales du 9 octobre qu'ils estiment irrégulières. Lutero Simangu, le candidat du mouvement démocratique du Mozambique, et Osufo Momad de la RENAMO, les deux principaux partis d'opposition, en ont fait une condition sine qua non. Ce dernier exige aussi la présence des quatre candidats. Or, celle de Venancio Mondlane, candidat indépendant, semble incertaine. Vendredi, le leader des protestations post-électorales a posé ses conditions, notamment la fin des poursuites judiciaires à son encontre, des indemnisations pour les victimes de la répression policière et une participation en visioconférence. La présidence ne s'est pas encore exprimée sur ses exigences. La rencontre est prévue à 16h. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
La répression des contestations post-électorales a fait plus de 40 morts déjà selon plusieurs organisations civiles. Le Mozambique, où la filiale du groupe français Total était bien au courant des exactions commises par les forces de défense et de sécurité qui protégeaient son site gazier d'Afungi. Le journal français Le Monde révèle des documents internes de cette filiale mozambicaine du géant de l'énergie. Ces rapports montrent que, dès 2021, la société avait connaissance des cas de disparition, de violence, voire de meurtre sur des civils aux abords de cette péninsule, près du chantier du gigantesque site gazier. Il y a 2 mois, le média Politico révélait ces abus commis alors que la province du Cabo Delgado connaissait une violente insurrection djihadiste. Le groupe Total avait alors démenti avoir jamais eu connaissance de ces informations, Claire Fage.
Total avait connaissance dès 2021 des violences fréquentes que les forces de sécurité mozambicaines faisaient subir aux civils des environs. En témoignent les rapports sociaux trimestriels de sa filiale Mozambique LNG. Dans ses documents confidentiels destinés à l'agence italienne de crédit export, il est écrit que depuis le 2 avril 2021, les habitants ont régulièrement fait état de violations des droits humains commis par les Joint Task Force, les militaires et policiers mozambicains rétribués pour effectuer une surveillance du site gazier. Les primes à ces soldats ont d'ailleurs été suspendus pendant 2 mois, apprend-on dans ce document. Dans un rapport ultérieur, la filiale de Total évoque le sort de 2 pêcheurs battus par ces mêmes forces de sécurité, dont l'un a mort en mars 2022. Solliciter la communication de Total met aujourd'hui en avant l'environnement sécuritaire dégradé de l'époque qui donnait lieu à des risques accrus d'abus, risques contre lesquels le groupe pétrolier français avait essayé de se prémunir par des formations, des militaires, des incitations financières et un système de plaintes et d'investissements. investigation. Total a, depuis le rapport du diplomate Jean-Christophe Ruffin en mars 2023, rompu son accord avec cette Joint Task Force.
La chaîne privée Joliba TV doit cesser d'émettre à compter d'aujourd'hui. Décision de la HAC, la haute autorité malienne de la communication, dans une affaire qui fait bondir les défenseurs de la liberté de la presse. Il y a 10 jours, une figure bien connue au Mali, Issa Kaounjim, avait tenu dans une émission de Joliba des propos qui avaient déplu à la transition du Burkina Faso voisin. Il avait fortement mis en doute une suspicion de coup d'État que les autorités ouagalaises auraient déjoué. Il se trouve lui-même en détention provisoire et c'est donc toute la chaîne qui fait les frais de la colère du Burkina Faso. La justice sud-africaine tranche sur le fond. L'opération de police autour du puits de mine de Stilfontein n'est pas contraire à la Constitution. Depuis plusieurs semaines, les forces de l'ordre encerclent cette mine illégale. Plusieurs centaines de chercheurs d'or sont encore au fond. Mais la police empêche les riverains de les ravitailler en eau et en nourriture pour les forcer à remonter. Les riverains, justement, et des associations de défense des droits de l'homme avaient saisi la haute cour du Raoteng pour tenter de lever ce blocage policier qui, finalement, Valentin Hugues, n'est donc pas anticonstitutionnel.
Il y a tout un débat autour du mot piégé. Pour les communautés locales, les mineurs illégaux sont piégés sous terre par la police parce qu'elle encercle l'entrée principale de la mine 24 heures sur 24 et coupe leur approvisionnement. C'est pour cette raison que l'ONG Société pour la protection de notre Constitution voulait contraindre les forces de l'ordre à aider ces amazamas. Mais la police répond que le puits n'est pas fermé, les mineurs illégaux peuvent sortir. Récemment, 14 personnes, dont un jeune de 14 ans, ont refait surface dans la nuit. La haute cour du Raoteng à Pretoria a donné raison à la police sud-africaine en statuant que leur opération ne va pas à l'encontre des principes de la Constitution. La cour confirme ce que nous avons toujours dit, personne n'est piégé, a déclaré la porte-parole de la police. Mais sur place, les habitants, appuyés par des associations de défense des droits humains, eux sont clairs. Les mineurs sont bien piégés, car sans eau et sans nourriture depuis plusieurs semaines, certains sont morts, beaucoup d'autres n'ont tout simplement plus aucune force pour remonter les presque 2 km de corde qui les relient à la surface. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Il est 5h37 à Johannesburg.
Afrique Matin sur RFI.
Société civile et opposition politique à Madagascar jugent déséquilibré le budget de l'État pour 2025. Les députés doivent voter dans les jours qui viennent la loi de finances qui leur a été présentée la semaine dernière. Les organisations civiles ont mis aussi leur nez dans ce texte. Elles déplorent les arbitrages budgétaires du gouvernement. On y lit par exemple que l'État va massivement investir en fonds propres dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, tandis que les branches de la santé et de l'éducation devront se contenter de la portion congrue. Pauline Le Troquier.
Les investissements financés sur fonds propres de l'État doivent quasiment doubler, atteignant cette année les 2368 milliards d'ariars. Le secteur de l'énergie capte à lui seul près du quart de ce montant en ressources internes. Si les uns reconnaissent des investissements vitaux pour le pays, Oni Rader, la secrétaire générale du collectif des citoyens et des organisations citoyennes, regrette une allocation disproportionnée.
On a une très faible prise en compte de l'éducation. C'est pareil pour la santé. Aujourd'hui, l'augmentation est principalement portée par les bailleurs de fonds. Parce que si on regarde la variation des investissements internes, on constate qu'elle est négative au niveau de la santé.
611 milliards d'arrières financés, là encore entièrement sur fonds propres pour la construction de la première autoroute du pays. Ce projet cher au président Andry Rajoelina est déjà contesté d'un point de vue environnemental. Yafku Ramanitcharyev, responsable communication du parti d'opposition MMM, y voit un décalage avec les besoins réels de la population.
On alloue 611 milliards d'arrières à l'autoroute et on alloue seulement 150 milliards d'arrières pour l'entretien et la construction des routes nationales. Or, entre choisir entre l'autoroute et la construction des routes nationales, je pense que le choix est vite fait.
Pour supporter ces grands investissements, l'État affiche par ailleurs sa sobriété en réduisant de 10% les dépenses allouées à son fonctionnement. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Une justice encore inadaptée, mal calibrée et insuffisante au lendemain de la journée contre les violences fondées sur le genre. L'ONG américaine Equality Now dégaine un rapport amer sur les réponses que les justices africaines apportent aux femmes victimes de violences. Apporte ou plutôt n'apporte pas, puisque l'organisation a disséqué les textes de loi de près de 45 des pays du continent pour conclure que les lacunes sont encore très nombreuses en matière de réponse pénale, de soutien aux victimes de violences et d'accompagnement dans leurs démarches. Paul Lorgerie.
Selon l'ONU Femmes, près de 33% des femmes africaines âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles de la part d'un partenaire intime. Une donnée bien en deçà de la réalité, insinue Equality Now. Les contraintes culturelles doublées de l'ostracisme auquel elles s'exposent, les décourageant souvent pour porter plainte devant les juridictions compétentes lorsqu'elles sont compétentes. Le rapport relève que toutes les formes de violences sexuelles ne sont pas reconnues par les codes pénaux des différents pays et que les peines prononcées ne sont parfois pas proportionnelles au mal engendré. L'ONG prend exemple sur la Guinée équatoriale qui, dans son code criminel, indique, je cite, que le viol de toute femme devrait être puni d'un emprisonnement mineur. Autre question sensible, celle du mariage. Lorsque l'on sait que les violences sont en majorité commises dans le cadre familial, il arrive que les peines soient plus légères lorsqu'il s'agit d'un mari violent. Et quand bien même ces cas seraient portés devant un tribunal, certains codes criminels exigent de la victime un certificat médical afin de porter plainte dans des régions où l'accès aux soins est parfois difficile.
Paul Lorgerie, le football et la Ligue des Champions qui reprend dès cet après-midi pour les équipes africaines. Première journée de la phase de groupe, ouverture des débats 13h en temps universel. Le tout-puissant Mazembe reçoit le Mouloudia d'Alger. Tandis que les Young Africans s'affrontent à Al-Hilal. 3 heures plus tard, le stade d'Abidjan retrouvera la reine des compétitions qu'il n'avait plus connue depuis 50 ans. Et pas face à n'importe qui, s'il vous plaît, puisqu'il affronte l'Al Ahly du Caire, champion en titre, et rien moins que le club le plus titré d'Afrique. Alors comment est-ce qu'on aborde un tel retour en Ligue des Champions avec l'envie d'en découdre? Molamine Sissavané.
Non, forcément, jouer à l'Al Ahly au Caire, c'est un match spécial.
Match spécial, public fervent, dans un stade de prestige. Alexandre Lafitte, coach du stade d'Abidjan, veut bien démarrer cette phase de poule afin de créer une bonne dynamique. Mais le défi reste pharaonique.
Vous démarrez cette phase de groupe par une équipe composée que d'internationaux, pour la plupart égyptiens ou même marocains. On a une volonté de vouloir se challenger parce que c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour ça qu'on joue cette compétition, c'est pour affronter les meilleurs.
Se frotter aux meilleurs après avoir réussi à passer les deux tours préliminaires est en soi un bel accomplissement pour le stade d'Abidjan, estime Guillaume Aoutou. Mais pour cet analyste, tant qu'on y est, que le stade engrange du bonus.
C'est une équipe du stade d'Abidjan qui va croiser le fer avec un gros calibre de l'Afrique, mais qui peut jouer les trophées dans ce groupe. Mais parce que nous sommes en football et en football, tout reste jouable.
Arrivé au Caire depuis vendredi avec son équipe, le coach Alexandre Lafitte est sûr d'une chose.
Nous, sincèrement, on est ici avec beaucoup d'ambition et d'humilité. Nous, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Et donc, on va montrer un visage conquérant pour essayer d'aller chercher tout ce qu'on pourra aller chercher.
Toute cette phase de poule sera de toute façon une quête pour les stadistes, vu leurs prochains adversaires, Belouizdad et Orlando Pirates. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Coup d'envoi 16h en temps universel, 8 rencontres au programme pour cette première journée. Antoine Grenier, ici même dans une heure pour le premier journal des sports complet de cette matinale. 38 ans enfin et un troisième album sorti au début du mois. Un peu de douceur et de nostalgie maintenant avec la voix de Lucy Bella. L'artiste d'origine capverdienne propose Moda Antigua en français, à la mode d'autrefois. Et comme son nom l'indique, elle pose sa voix envoûtante sur des mélodies et des airs des décennies passées, hommage au rythme traditionnel des bals populaires de l'archipel. C'est le choix d'Isabelle Chenu.
Faire voyager le patrimoine musical de son archipel, c'est le combat de Lucy Bella. La chanteuse de 38 ans vit à Lisbonne, elle écoute du hip-hop, de l'électro ou de la kizomba, mais continue à marcher dans les pas de la grande Cesaria Evora et de défendre les chansons populaires, les mythes et les histoires du Cap-Vert à destination des nouvelles générations. Lucy Bella remet au goût du jour les rythmes traditionnels, mornas, coladeras, batouk, mais aussi les poètes et compositeurs dans des textes où il est souvent question d'amour. Hommage aussi dans cet album aux femmes, aux mères, marchandes de rue pour nourrir leurs enfants. Lucy Bella reprend ici une création du poète créole Manuel de Novas, Baloy. Tchalimpa.
Découverte plus en longueur de ce troisième album tout à l'heure avec le choix d'Isabelle Chenu, 7h50 en temps universel. Et pour les plus mélomanes d'entre vous, notre site dédié à la musique a légèrement changé d'adresse, rfi.fr/musique désormais, 3h44 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI.
Rapidement, le programme des prochaines Minutes Afrique Éco, le Nord Kivu dans l'Est de la RDC qui voit le M23 s'emparer de ses richesses minières. On parle aussi de la coopération entre la France et le Canada dans le domaine des minéraux critiques. Et puis l'actualité dans les territoires français de l'océan Indien avec les confrères de La Première. Retour d'abord au Soudan pour la suite des reportages exceptionnels que l'envoyé spécial de RFI a pu tourner sur place. 19 mois de guerre entre les camps de deux généraux et la pire crise humanitaire du monde. Le Soudan, ce sont 45 millions d'habitants. Plus de la moitié aujourd'hui sont en situation de sous-nutrition aiguë et 8 millions même en état critique. Quand ce ne sont pas les armes qui tuent, c'est la faim tout simplement. Les médecins voient arriver des patients qui ont filtré l'eau du Nil pour se nourrir des sédiments. À l'hôpital Al-Shouada de Bari, dans le nord de Khartoum, c'est un reportage d'Eliott Brachet.
Devant les portes du service de nutrition, Salwa Zakaria erre, le regard dans le vide.
Mes deux filles sont mortes de faim. La première de 12 ans, il y a 4 mois. La seconde, d'un an et demi, est morte il y a une semaine. Nous n'avons rien à manger.
Dans le cabinet de Fatima Haroun, des bébés rachitiques se succèdent sur la balance.
Rien qu'au mois de septembre, nous avons enregistré 20 décès d'enfants de moins de 5 ans. Avant-hier, un bébé est mort ici. Nous n'avons rien pu faire. Nous sommes face à une famine de niveau 1, mais personne ne se rend compte de la gravité des cas que nous recevons ici. J'ai reçu une famille qui, lorsqu'ils n'ont rien à manger, dilue du limon du Nil dans une assiette.
Des silhouettes fantomatiques patientent dans le hall de l'hôpital. Un jeune garçon, Fayad, la peau sur les os, est entre les mains du docteur Imad.
Quand je l'ai reçu aux urgences, il était déshydraté, en hypotension. Il manquait de sucre, d'eau, de tout. Fayad, est-ce que tu arrives à parler ?
Pas de réponse. Les lèvres du garçon remuent à peine. Ceux qui parviennent à fuir les zones cernées par les combats arrivent dans des états critiques. Raza Hussein vient de quitter le quartier de Samarab, à 1 kilomètre d'ici.
Il n'y avait pas de nourriture. Les marchés sont vides. Les gens meurent ici et là. Dans notre quartier, il y a eu 150 morts en 2 semaines. Mes voisins, par exemple, ils sont morts de dysenterie foudroyante et d'autres à cause de l'eau du puits. Et aussi, il y a la dengue. Les enterrements s'enchaînent à la va-vite pour ne pas que les corps répandent les maladies.
En plus de la dengue, la malaria et le choléra se répandent. En temps normal, ces maladies ne tuent pas si elles sont prises en charge, mais la faim en fait des fléaux, selon la directrice de l'hôpital, Hadil El Hassan.
Ce n'est pas une question de pénurie de médicaments. Ces décès s'expliquent car les défenses immunitaires des gens sont au plus bas. Avec la guerre, toutes les usines, les marchés ont été détruits ou pillés. Les citoyens sont assiégés, ils n'ont pas accès à la nourriture et on ne peut pas leur en envoyer. Il faut que des corridors humanitaires soient ouverts, notamment vers les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Dans ce chaos, il est impossible de donner des chiffres précis, mais les morts à cause de la faim sont innombrables. Ils sont les résidus de la guerre.
Alors que la faim risque de tuer plus que la guerre, l'aide humanitaire reste sous-financée. Elle est distribuée au compte-gouttes. Ici, les Soudanais se sentent abandonnés. Eliott Brachet, Khartoum, RFI.
Trois reportages, la suite demain, vous les retrouverez tous sur notre application dédiée RFI Pure Radio. Afrique Éco dans une minute.
RFI, toute l'actualité. Édouard Dupenoit.
Les grands titres de ce 26 novembre 2024, les États-Unis d'abord avec l'arrêt des poursuites qui visaient Donald Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Une juge fédérale suit les recommandations du procureur spécial Jack Smith qui renonce aussi à poursuivre le président élu pour rétention de documents classifiés. C'était l'autre procédure fédérale qui le visait. Le cabinet de sécurité israélien qui doit se prononcer aujourd'hui sur un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hezbollah au Liban. Les États-Unis affirment qu'un accord est proche. La présidence française estime pour sa part que les discussions ont avancé significativement. Et puis en France, 20 ans de réclusion criminelle requis contre Dominique Pellicot, l'accusé principal au procès de Mazan. Le septuagénaire est accusé d'avoir drogué, violé, puis fait violer sa femme par des dizaines d'hommes, et cela pendant des années. Le dossier de l'économie africaine avec les entreprises minières du Nord Kivu dans l'Est de la RDC. Des entreprises bien entravées par les avancées territoriales des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Depuis que le groupe s'est emparé du site minier de Rubaya dans le territoire de Massissi, les autorités provinciales constatent bien le manque à gagner. Elles estiment que la production de coltan sur laquelle les entreprises avaient la main ont chuté de 100 tonnes par mois, soit 7 millions de dollars en moins. C'est un gouffre. Le minerai contribue largement au financement du groupe armé et part désormais dans des circuits opaques. Dossier de notre correspondant héritier Baraka.
Au siège de Kivu Mineral Resources SARL, une des entreprises de Goma qui achète des minerais, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Yvette Mwanza est la directrice générale de l'entreprise. Elle est également la présidente de la Chambre des mines au sein du Conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC au Nord Kivu. Le chiffre d'affaires de son entreprise est en baisse à cause des problèmes d'approvisionnement.
Nous avons perdu principalement dans les territoires de Massissi, Ubaya, Ngungu. Ce sont des localités qui produisent énormément de coltan. Bon, surtout pour le coltan, on ne reçoit presque plus rien. On peut faire facilement 30 tonnes de coltan par mois. Maintenant, si vous prenez le coltan parti du Maniema sur tout un mois, vous pouvez juste recevoir 3 tonnes.
La prise de Rubaya par les M23 affecte plus de 6000 creusers artisanaux qui se retrouvent sans emploi, selon la coopérative des creusers miniers artisanaux de Massissi. Beaucoup de creusers ont fui, les autres doivent se soumettre aux règles du M23, indique la coopérative. C'est qu'a également mis en avant Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, lors de son dernier passage au Conseil de sécurité à New York en septembre dernier.
Au Nord Kivu, la consolidation du contrôle administratif du M23 sur les territoires de Massissi et Rutshuru au Nord Kivu lui a permis d'établir un contrôle total sur la production de coltan. Le commerce en provenance de la région de Rubaya, qui selon les estimations fournit plus de 15% de la production mondiale de tantal, génère environ 300 000 dollars par mois pour le groupe armé. Cette situation est profondément préoccupante et doit cesser.
Alexis Mohima, leader du groupe thématique mine et hydrocarbures au sein de la société civile au Nord Kivu, alerte sur l'erreur que jouent les États et les entreprises dans la situation actuelle.
Toutes ces guerres que nous vivons sont alimentées par l'exploitation minière. Si tous ces États, si toutes ces entreprises qui s'approvisionnent en minerais dans cette zone respectent les devoirs de diligence, cela va couper tout lien entre l'approvisionnement de ces groupes armés en minerais illicites.
Le M23 AFC, en mai dernier, avait annoncé interdire à ces hommes d'accéder aux sites miniers. Cependant, plusieurs membres de la société civile dénoncent le trafic de minerais qui seraient ensuite exportés illégalement vers le Rwanda et l'Ouganda. Héritier Baraka, Goma et RFI.
Le coltan n'est pas à proprement parler un minéral critique, mais le cobalt en est un en revanche, et on en parle tout de suite dans la chronique des matières premières. La France et le Canada multiplient depuis 2 ans leur coopération dans les secteurs miniers. Les voyages des responsables divers s'enchaînent dans les deux sens. Le monde a un appétit croissant chaque année pour ces minéraux indispensables à la transition énergétique. Et chacun cherche donc à réduire sa dépendance à la Chine particulièrement. Marie-Pierre Olfant.
Il a été nommé il y a 2 ans, mais prépare déjà son 5e voyage au Canada. Les déplacements outre-Atlantique du délégué interministériel français chargé des approvisionnements en minerais et métaux stratégiques illustrent la volonté des deux pays d'avancer main dans la main pour mieux préparer la transition énergétique. Et s'il fallait une autre illustration, on pourrait parler du séjour cette semaine en France, dans la capitale, de plusieurs sociétés canadiennes venues chercher des partenaires français pour aller encore plus loin dans l'innovation. Car l'innovation permet d'être plus compétitif, de développer des filières minières et métallurgiques plus respectueuses de l'environnement et tout simplement de gagner du temps. Par exemple, réduire de 5 à 2 ans les délais de prospection. Aujourd'hui, les projets sont trop longs à mettre en œuvre vis-à-vis des besoins de la transition énergétique et ces problèmes de calendrier risquent d'entraîner un décalage entre l'offre et la demande dans les années qui viennent. Les Européens sont en retard et ils le savent, la production minière augmente sur tous les continents, sauf en Europe. Les acteurs majeurs dans l'extraction sont souvent chinois, rarement européens. C'est aussi vrai pour le raffinage, d'où la volonté de l'Europe de réduire cette dépendance vis-à-vis de la Chine. L'objectif est le même pour le Canada, qui affiche une ambition beaucoup plus grande, celle de devenir un leader mondial dans la production et la fourniture de minéraux critiques. La richesse du sous-sol canadien n'est plus à approuvé. Le pays produit plus de 60 minéraux et métaux et possède d'importantes réserves de terres rares. Pour aller plus loin, le Canada a posé des actes forts. En 2022, le pays a simplifié les procédures administratives et mis en place des incitations fiscales afin d'accélérer le développement de nouveaux projets miniers.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. Le retour du journal L'Actualité Internationale sur RFI dans 5 minutes avec Clotilde Dumay. L'actualité d'abord dans les territoires français de l'océan Indien. Retour sur les nombreuses actions organisées hier pour la journée internationale de l'élimination des violences fondées sur le genre. Odana Ghiali, bonjour.
Bonjour. Depuis le début de l'année, 4 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons à La Réunion. Les violences conjugales en hausse de 10% entre 2022 et 2023, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Anaïs, 33 ans, est mère de 3 enfants, témoigne. Elle s'est confiée à Priscilla et Thève.
Mariée à 22 ans, Anaïs nage dans le bonheur jusqu'à ses 27 ans. Tout commence par des remarques sur sa façon de s'habiller.
Au début, je disais que mes vêtements étaient un peu trop serrés, comme une pute. Même un jean, pour lui, c'était trop moulant.
Un an plus tard, arrive la première gifle, puis les violences sexuelles, raconte la jeune mère de famille, la gorge nouée.
Pour lui, c'est un devoir conjugal. Voilà, elle faisait pression sur les enfants, que lui aurait fait réveiller les enfants, que lui aurait fait une crise. Donc, on n'avait pas le choix.
Son calvaire va durer 6 ans.
Mais dis-moi, est-ce que c'est un cauchemar, c'est un rêve, il n'est pas vrai, il est irréel. Moi, t'es perdu.
Avant qu'Anaïs finisse par briser le silence.
Pour moi, c'était une honte. C'est jusqu'au jour où il m'a parlé avec ma maman. C'est là que tout a basculé, on va dire.
Elle quitte le domicile conjugal, porte plainte et bénéficiera d'un bracelet anti-rapprochement pour se protéger de son bourreau.
Pendant 6 mois, donc, lui, l'interdiction d'approcher de moi et des enfants. Moi, elle a vraiment été très bien prise en charge. Les gendarmes. Ce qu'il y a aussi les femmes victimes de violences, c'est les groupes.
Depuis, Anaïs a guéri de ses blessures. Son passé cabossé est déjà loin derrière elle.
Priscilla et Thève, Réunion la première. À Mayotte, des actions artistiques pour dénoncer le fléau des violences faites aux femmes. Place de la République à Mamoudzou hier, des femmes victimes ont exposé leurs tableaux au grand public. Une action de sensibilisation organisée par l'ACFAV, l'association de la condition féminine et l'aide aux victimes. La directrice de l'association Nadia Gomis au micro de Ismaël Mohamed Ali.
Nous pensons que l'art, c'est justement une manière de sublimer ce que l'on a pu, ce que l'on a de difficile à dire. Et à la place des mots, on va y mettre des couleurs, on va y mettre des objets, on va faire des assemblages. Et ça permet vraiment de pouvoir exprimer des douleurs, des joies, des peines, mais sans y mettre les mots qui parfois peuvent être beaucoup plus violents à dire et à prononcer, comme on a pu le voir tout à l'heure, où des femmes peuvent pleurer quand elles racontent leur histoire, alors que le tableau, ça les décentre un peu de leur histoire et ça leur permet d'en parler quand même.
En Mayotte, où les coupures d'eau se sont intensifiées depuis hier sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la zone d'activité de Kaweni. Coupure d'eau dès 10h le matin et non plus à 14h, Abderrahmane Saïd.
4h en moins de distribution d'eau sur l'ensemble du territoire de Mayotte à compter de ce lundi 25 novembre. Les coupures vont se réaliser dès le matin à 10h. Si la sécheresse a longtemps été avancée parmi les raisons du manque d'eau, la principale difficulté reste aujourd'hui le sous-investissement des infrastructures vieilles et insuffisantes. Les nombreuses fuites des installations sur le réseau, estimées à 35% en 2023, représentent une perte considérable de la ressource. Les forages, les retenues collinaires et l'usine de désalinisation de Petite Terre n'arrivent plus à satisfaire les besoins de la population. Une situation d'autant plus préoccupante face à la démographie galopante. Début 2023, alors que Mayotte vit une crise de l'eau sans précédent, de nombreuses annonces sont faites par les différents membres du gouvernement venus à Mayotte. Pour l'heure, rien ne semble changer. La troisième retenue collinaire et la deuxième usine de désalinisation sont encore des promesses. Les tours d'eau, eux, continue de rythmer le quotidien et les restrictions de nouveau en vigueur à Mayotte.
Bonne journée et à demain.
Merci, bonne journée et à demain. Odana Ghiali, merci à Thierry Le Saint qui réalisait cette première demi-heure africaine sur RFI. L'actualité du continent revient à 4h30 en temps universel. Vous serez tout à l'heure avec Arthur Ponchelet. Je vous donne aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire. On vous lit et on vous répond. C'est en un seul mot, africematin@rfi.fr. Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio France Internationale. Le journal revient dans tout juste une minute.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
recherche d'emploi, si vous êtes jeune diplômé, nos spécialistes vous conseillent.
Demain,
autopsie du monde enseignant en France, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Ce mardi sur RFI.
Pourquoi refaire l'histoire de la domestication ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
L'archéozoologue Jean-Denis Vigne nous entraîne aux origines des domestications animales par les humains sur toute la planète. Chien, chat, vache, chameau, lama ou cheval, qu'est-ce que ça dit de nous et des autres animaux ? Qui a domestiqué qui ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.